Ça va? Alors, très, 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 très content de vous retrouver. On poursuit notre série L'Église contagieuse. Et cette série-là vise à faire connaître les couleurs de l'Église de l'espoir. Avec le confinement, on a suivi plein de bonnes ressources sur le web et nous nous sommes dit que ce serait à propos de définir, de clarifier, de présenter quelles sont les couleurs de l'Église de l'espoir ici. On a vu déjà plein de choses, je vais juste les rappeler très rapidement. On a commencé avec l'idée de l'Église locale. L'Église 2.0 version web, ce n'est pas l'Église. Peut-être que c'est l'Église universelle, mais ce n'est pas l'Église à laquelle Dieu nous appelle à participer. Tout au mieux, c'est un outil pour nous assister si on est mal pris, on est malade, on est retenu à la maison, le gouvernement nous demande de se confiner. On s'en va sur le web, c'est génial. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est la communion des saints. L'Église en chair et en os, une Église locale à laquelle tu peux t'identifier. On a vu ensuite que l'Église de l'espoir cherche à être fondée sur la Bible. Donc, la Bible doit être au centre, c'est notre autorité. L'autorité ne se trouve pas fondamentalement chez les pasteurs, elle se trouve dans les Saintes Écritures. Et donc, on se tourne vers les Écritures pour apprendre à penser, à regarder le monde, à comprendre la foi, à connaître Dieu, à se connaître nous-mêmes. Ce que nous faisons dans cette église, normalement, nous exposons des livres bibliques le dimanche matin. C'est-à-dire qu'on prend un livre, on passe à travers le livre progressivement. On vous encourage à lire votre Bible chaque année. On a des plans de lecture de la Bible ensemble parce qu'on veut constamment voir notre intelligence être renouvelée par les Saintes Écritures. Ensuite de ça, on a vu que la vie chrétienne commence avec une conversion. La Bible va appeler ça aussi la nouvelle naissance. Et donc, il ne suffit pas d'aller à l'Église, d'apprendre les traditions chrétiennes, d'apprendre comment vivre comme un chrétien. Il faut vivre personnellement un miracle très individuel, une intervention de Dieu où il y a un miracle de collaboration entre le Saint-Esprit de Dieu et tout ton être. Où tu rencontres Dieu, tu saisis la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. Puis lorsque tu saisis ça, tu es complètement transformé. Il y a vraiment un bouleversement. Complètement. Disons que la transformation n'est pas terminée, mais il y a vraiment un bouleversement intérieur où tu dis, OK, à partir d'ici, je comprends que je suis sauvé par grâce. C'est vraiment par la grâce de Dieu, à cause de son pardon, que je vais aller dans sa présence pour l'éternité. Et à partir d'ici, je veux suivre Jésus. Je ne veux plus suivre Yannick, je veux suivre Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est mon maître, que je suis en train de suivre. Je veux apprendre, je deviens son disciple. Et ça, c'est la conversion, la nouvelle naissance. On a vu ensuite l'adoration. Et l'adoration, c'est, ici à l'Église de l'Espoir, c'est notre réponse d'émerveillement à ce que Dieu nous fait connaître de lui dans sa parole. On va dans la parole, ces vérités qui sont là viennent s'incuber en nous, ça se transforme en nous, on médite ça, puis on devient émerveillé par la personne de Dieu. Et pour nous, c'est ça l'adoration. C'est une réponse à la révélation de Dieu qui vient saisir mes pensées, ma volonté, mes sentiments, puis je vais exprimer ça dans ma louange. C'est littéralement ça, l'adoration ici à l'Église de l'Espoir. On a vu ensuite la centralité de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas seulement le début de la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne à tous les jours. Et si l'Évangile n'est pas présent dans ta vie chrétienne à tous les jours, ta vie chrétienne va être misérable. Parce que le réflexe de l'être humain, c'est d'avoir une attitude religieuse, où on pense qu'on veut suivre des devoirs religieux, on va accomplir des devoirs religieux. On veut à quelque part se justifier, apaiser notre âme en faisant tout ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Mais on le répète souvent ici, ça n'existe pas un bon chrétien, nous sommes tous des graciés. Dieu nous a fait grâce, d'accord? Le seul qui est bon, c'est Dieu, comme le dit le Seigneur Jésus lui-même. Enfin, on a vu la semaine dernière l'idée de congrégation. Nous sommes une congrégation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité à l'extérieur de notre église locale, sur cette église locale, sinon Jésus lui-même. Et donc, la congrégation des saints, tous ceux qui ont décidé de faire de cette église leur église, sont membres de cette église, font partie de cette congrégation. Les anciens, les pasteurs, sont là pour diriger la congrégation, mais ça se fait toujours, on va donner une direction et on va aller chercher l'amen, l'assentiment de l'église dans les grandes décisions, parce que nous savons que vous avez l'Esprit Saint, tout comme nous. Et il n'y a pas d'autre autorité sur cette église, à l'extérieur de cette église. Ça se passe ici. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Les anciens essaient de discerner ce que Dieu est en train, là où Dieu est en train de nous conduire. On le présente à l'Assemblée. Et si ça vient de Dieu, l'Assemblée va dire « Amen, je suis d'accord ». Et c'est pour ça qu'on consulte régulièrement l'Assemblée dans nos grandes décisions. Enfin, cette semaine, une autre couleur qui nous distingue beaucoup de la culture, cette idée que nous sommes différents et complémentaires. Et là, on parle du rapport entre l'homme et la femme dans le mariage. On parle du fait qu'aussi, ce sont des hommes qui sont pasteurs dans l'Église. Cette idée que nous sommes différents et complémentaires. Et j'aime le dire comme ceci. Célébrer l'image de Dieu dans tous les êtres humains et la beauté de notre complémentarité homme-femme. C'est ça qu'on cherche à faire. On veut célébrer l'image de Dieu dans chaque être humain. On va voir ça ensemble ce matin. Et puis en même temps, on veut se réjouir, on veut apprécier cette complémentarité que Dieu a mis dans sa création entre les hommes et les femmes. On va aller ensemble dans un mot de prière, on va écouter un court passage des Écritures, puis on va plonger ensemble dans la parole de Dieu. Père éternel, nous venons t'adorer ce matin. Nous nous rassemblons en Église pour chanter des louanges, pour être éclairés, instruits, inspirés par ta parole. Que tu viennes saisir nos cœurs, notre pensée, nos émotions, nos affections, nos désirs, Seigneur. Que tu viennes changer notre vision du monde, notre vision de l'être humain, de l'homme, de la femme. Que tu viennes nous conduire selon ta révélation, Seigneur. Alors je te prie, Père, ce matin, par ton Esprit Saint, de premièrement me remplir de ton Esprit, afin que tout ce que j'enseigne soit conforme à ta parole et vraiment inspiré aussi par cette puissance de l'Esprit. Et je te prie aussi pour chaque personne qui va entendre ce message, Seigneur. Notre culture est en conflit ouvert avec la révélation de ta parole sur cette question. Et nous voulons découvrir ta pensée à toi. Et Seigneur, nous voulons découvrir la beauté de ta pensée aussi, afin vraiment de l'embrasser joyeusement, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le premier chapitre de la Bible, c'est-à-dire Genèse 1, avec deux courts passages. Premièrement, les versets 26 à 31 et deuxièmement, les versets 18 à 25. Alors, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. On recule au verset 18. En fait, c'est le chapitre 2 plutôt, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. »
Quand tu dis qu'il était nu, ça veut dire qu'il n'était pas masqué? Ben, il n'y avait peut-être pas de virus non plus. Je dis ça comme ça. Dieu est un être absolument extraordinaire. Dieu est un être incomparable. J'espère que vous avez reçu votre petit livre dédicacé. Si ce n'est pas la première fois que vous venez, vous l'avez déjà reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, venez à la table. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est l'attribut ou c'est l'expression qui définit le mieux le fait que Dieu est absolument incomparable. Il est infiniment parfait. Il est absolument sublime. Il est sagesse par excellence. Il est l'amour infini. Dieu est incomparable. Et dans sa parole, Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image. C'est quand même assez extraordinaire. Après avoir créé tout le reste de la création, Dieu crée l'homme et la femme et il dit « Voici, je vais créer des êtres à mon image, moi qui suis un être incomparable. » C'est vraiment extraordinaire. Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, 27, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Dieu nous a créés à son image, homme et femme. Notre complémentarité est belle et elle doit être célébrée. Ça devrait être un immense sujet de joie. Ce matin, on va faire vraiment un survol de cette question du rapport homme-femme à l'intérieur du mariage. Un survol parce que c'est un sujet qui est très, très vaste, un sujet qui est important, puis je décide de déposer plus des fondements qu'aller vraiment dans les détails, mais j'ai à cœur éventuellement de l'explorer davantage avec vous. Toute cette notion même de leadership dans le service, de soumission volontaire et libre, c'est un sujet que je trouve de plus en plus beau et glorieux. Le Seigneur me permet d'explorer mon cœur dans ma soumission aux autorités de ce temps-ci. C'est pas mal fascinant ce qu'il révèle dans mon cœur. Alors, Dieu a créé toute l'humanité à son image. L'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Imago Dei, en théologie, on dit l'image de Dieu que porte l'être humain. Puis c'est assez vague. Voici comment je le résumerais. Dieu nous a créés pour que nous puissions penser comme lui, agir comme il agirait. Nous sommes des représentants de Dieu dans ce monde. Ça se manifeste sur le plan moral. Ça se manifeste sur le plan intellectuel, ça s'exprime sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, dans notre créativité. À travers toutes ces choses-là, nous pouvons être des reflets de la personne de Dieu, de quelque chose qu'il y a en chacun de nous. Dieu nous a créés pour sa gloire et nous le glorifions en regardant le monde. Quand je parle du monde, je parle autant des gens que de la création. Donc Dieu nous a créés pour sa gloire et nous le glorifions en regardant le monde comme lui. En aimant le monde comme lui, en étant en relation avec le monde comme lui, en agissant dans le monde comme lui. Alors la première chose qui est à remarquer, c'est que nous avons été créés égaux en dignité. Et si vous ne saisissez pas cela, le reste du plan de Dieu ne tient pas. Nous sommes égaux en dignité. C'est fondamental de saisir ça. Dieu crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu. Donc le mot « homme » que j'ai ici, c'est vraiment avec un grand H. On parle de toute l'humanité. Je ne traduirai pas « Dieu créa l'être humain » parce qu'il va donner le nom d'Adam à toute l'humanité, qui est le prénom aussi du premier homme. Donc, c'est approprié de l'appeler « homme ». Dieu créa l'homme à son image et il le crée « homme et femme ». Cette diversité-là est très spéciale. Elle est très différente de ce qu'on voit ailleurs. Maintenant, la dignité est là pour tous les êtres humains. Écoutez bien ceci. Dieu l'a donné à tous les êtres humains, cette dignité. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous porteurs de l'image de Dieu, de toutes les couleurs, hommes, femmes, de tous les âges, de la conception dans le fœtus dans le ventre de sa mère, au dernier souffle d'un mourant inconscient, nous sommes porteurs de l'image de Dieu, de la personne la plus brillante sur la terre, au déficient intellectuel le plus limité, nous sommes également à l'image de Dieu, de la personne la plus en santé à la personne la plus handicapée, nous sommes à l'image de Dieu. Dans tous ces cas-là, l'être humain est sacré, qu'ils soient de n'importe quelle religion, qu'ils soient d'accord avec moi, qu'ils soient en désaccord avec moi, qu'ils m'aiment la face ou qu'ils me détestent la bine, il est créé à l'image de Dieu et il mérite le respect que je dois à toute personne qui est porteur de l'image de Dieu. Qu'il soit conscient, inconscient, qu'il soit de n'importe quelle couleur, mais spécialement de n'importe quel sexe. Homme ou femme, il y a là une diversité qui est spéciale. Il y a une diversité qu'on trouve dès la création, et c'est cette idée qu'on est homme et femme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Cette diversité-là est spéciale, elle dépasse la diversité des couleurs, des grandeurs, de la force, de la santé, de l'intelligence. Il y a quelque chose d'extrêmement intentionnel dans cette diversité-là qui va nous permettre à travers le rapport homme-femme, que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans tous nos rapports homme-femme, d'exprimer à quelque part l'image de Dieu d'une manière unique. Nous avons été créés différents, hommes et femmes, c'est là, c'est dans la nature. Et dans nos rapports les uns avec les autres, il y a une espèce de complémentarité, de complétude qui est là, qui n'est pas juste sur le plan de l'intimité entre un mari et son épouse, mais dans nos rapports aussi ensemble. Et cette diversité-là devrait être célébrée. Voyez-vous, je ne peux pas aborder la question de la complémentarité entre les hommes et les femmes de la même manière aujourd'hui que je l'aurais abordé il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on est même dans un rejet de toute notion, même biologique, de différence entre l'homme et la femme. J'y reviens dans un instant. Mais cette diversité-là doit être célébrée. Parce qu'à la création, vous avez l'homme et vous avez la femme, les deux sont créés à l'image de Dieu, également dignes devant Dieu, égales en importance devant Dieu, également porteurs de l'image de Dieu, et c'est ensemble qu'ils vont refléter parfaitement l'image de Dieu, dans leur rapport ensemble. Autrement, Dieu aurait simplement créé Adam et ça se serait arrêté là. Mais non, il y a quelque chose dans cette diversité-là, dans cette complémentarité, qui va manifester l'image de Dieu. Ça demeure mystérieux, mais en même temps, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est au boulot, puis qu'il y a une belle collaboration entre les hommes et les femmes, un vrai respect mutuel, une véritable écoute mutuelle, il y a des choses qui sortent là, qui ne sortent pas dans un vestiaire de sport après un match de hockey entre une gang de gars, tu sais. Ou encore dans une activité où il y a simplement des femmes. Mais lorsqu'on travaille ensemble, il y a quelque chose de riche, de beau qui sort là, dans cette collaboration, qui manifeste l'image de Dieu en nous. Dans le livre des Proverbes, on lit « Qui peut trouver une femme vertueuse? » Proverbe 31. « Elle a bien plus de valeur que les perles. » Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre va dire, 1 Pierre 3, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus délicat. » Peut-être que votre Bible dit « faible », j'aime pas ça, c'est pas ça le mot qui est là, c'est plus délicat. Et Pierre est en train de dire « il y a une richesse qui est là, il y a quelque chose qui est là. C'est bon que Brutus soit avec quelqu'un de plus sensible et plus délicat. C'est très enrichissant, c'est une grâce. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, égale en dignité, héritière égale de la grâce de Dieu. » De la grâce de la vie. Semblables, mais si différents. Nous sommes semblables, mais en même temps, on est différents. Et donc, il y a quelque chose dans l'ordre créationnel qui, je sais, dans notre culture, peut être révoltant. Dans notre compréhension de la notion d'égalité dans notre culture, l'égalité, je ne sais pas si vous connaissez l'expression en anglais, c'est pas simplement une égalité d'opportunité. On veut que les résultats soient égaux. D'ailleurs, même la notion de faire des Olympiques, admettons, puis d'avoir un gagnant parce qu'il est plus performant que les autres, ça ne fit pas tout à fait avec la culture. On devrait tous avoir la même médaille à la fin. Et donc, on ne va pas célébrer la différence. Il faut vraiment qu'il y ait une uniformité dans les résultats aussi. Mais ce n'est pas ça que les Écritures nous montrent dans la Révélation. Dieu crée dans un ordre l'homme et la femme parce qu'il y a une complémentarité entre les deux. Ils sont semblables, très semblables, mais ils sont aussi différents. On a plus de choses semblables entre l'homme et la femme que de différences. Même au niveau de la biologie, c'est clair, la science, c'est clair. Entre l'homme et la femme, il y a plus de choses semblables que de différences. Mais il y a des différences. Il y en a. Et elles sont précieuses, ces différences-là. C'est une richesse. C'est une grâce de Dieu parce que Dieu l'a conçu avec sagesse. Et donc, nous devrions célébrer cela. Toutes les saintes Écritures transpirent de ces belles différences qu'il y a entre les hommes et la femme. Lisez le Cantique des Cantiques, lisez le livre des Proverbes. Lisez le rôle que les hommes vont jouer lorsqu'ils sont ceux qui vont s'élancer pour protéger, se sacrifier. Lisez lorsque vous voyez la femme qui vient avec sagesse amener du bon sang dans la folie de la testostérone des hommes, des fois. On le voit, c'est partout dans les Écritures. Maintenant, le drame de l'histoire humaine, c'est que l'être humain a rejeté le projet de Dieu. L'être humain a littéralement rejeté le projet de Dieu. Et Dieu avait dit, en créant l'homme et la femme, il leur a dit, « Si vous rejetez mon projet, si vous choisissez d'être indépendant de moi, vous mourrez. Vous mourrez physiquement. Vous mourrez physiquement. Mais vous allez mourir aussi de bien des manières. Vous allez mourir spirituellement. » Et on n'a pas idée à quel point le fait de rejeter le projet de Dieu nous entraîne dans la folie. Lorsque tu ne connais pas la parole, ce n'est pas la folie, c'est la sagesse. En fait, lorsque tu ne connais pas la parole puis tu entends ça, tu dis non, mais ils sont malades mentales, c'est des arriérés. Pourtant, on est tellement plus près de ce qu'on observe dans la nature, de ce qui est naturel, en comprenant qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. Et cette folie-là, lorsque l'être humain rejette le projet de Dieu, va s'exprimer particulièrement de deux manières dans le rapport homme-femme. Je le résume comme ça ce matin. C'est un peu simpliste, mais en même temps, je veux jeter des bases, d'accord? Voici ce qui va se passer lorsque l'homme et la femme rejettent le projet de Dieu sur le rapport homme-femme. L'homme ne respectera plus son épouse comme ayant la même dignité que lui. Il cherchera à la dominer, à l'écraser. C'est à peu près l'histoire, hein, des rapports homme-femme jusqu'à la révolution féminine avec le féminisme en Occident. C'est à peu près ça le rapport. Et la femme, de son côté, ne cherchera plus à honorer son époux dans son leadership. Elle cherchera à le contrôler, à le manipuler. Et puis, on observe aussi de ça tranquillement dans la culture, c'est en train d'être présent aussi. Donc, premièrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est leur rapport qui va être affecté. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain va chercher à se réinventer. Si Dieu a créé l'homme et la femme, si Dieu a créé l'humanité, puis que l'être humain rejette le projet de Dieu, on se dit, bien, j'ai un tableau blanc, j'ai une toile blanche, puis maintenant, on va se réinventer, les amis. Et on va penser, on va imaginer qu'est-ce qu'on pourrait être si Dieu ne nous avait pas créés, qu'est-ce qu'on pourrait être? On part de zéro, on essaie de se réinventer. On est rendu là, dans notre culture, où on dit, ben, par exemple, la masculinité et la féminité, ça n'a rien à voir de biologique. C'est juste une construction culturelle. Là, tu es là et tu dis, c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, il y a quand même des évidences biologiques assez frappantes. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est juste des constructions sociales. Puis c'est vrai qu'il y a un aspect culturel à la masculinité et à la féminité, parce que lorsqu'on voyage dans le monde, selon les cultures, ça va prendre des expressions des fois un peu différentes. Donc il y a définitivement un aspect culturel à ça. Puis je vous dirais que c'est la beauté, c'est vraiment une beauté, c'est une richesse. C'est génial de jaser avec un couple qui vient de migrer d'Afrique puis qui vient nous parler de comment ça se passe chez eux. Ils sont chrétiens, ils connaissent la parole comme moi, mais la même lecture, la même Bible donne des expressions différentes. Donc, il y a des nuances culturelles, mais lorsque j'en viens à dire, la biologie ne dit rien. Ce n'est qu'un fait, une invention culturelle. Masculin, féminin, homme, femme, c'est une invention qu'on a fait. Là, tu es là puis tu te dis, OK, attends un petit peu là. Il nous reste quoi pour définir la réalité, là? Et on n'a plus rien. Lorsque l'être humain rejette le projet de Dieu, on n'a aucune idée encore jusqu'où peut aller le délire, jusqu'où peut aller la folie. On est observateur, peut-être inquiet, troublé, de voir, puis là, on se dit, non, mais il n'y a pas de fin à cette histoire-là. Il n'y a pas de fin à cette histoire-là. La biologie, la science est claire, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Elles ne sont pas énormes. Les hommes et les femmes se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne sont différents, mais les différences sont belles et on doit apprendre à les célébrer. Ça m'amène à parler de la complémentarité, qui est une partie de l'expression de l'image de Dieu. Puis je vais y aller rapidement, mais il y a une complémentarité dans la personne même de Dieu. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, lorsqu'on parle de Dieu, on va parler de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puis on a un indice de ça au tout début de la Bible, lorsque Dieu crée l'homme et la femme, dans Genèse 1, 26, voici ce qu'on lit. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Le « faisons » qui est là, c'est un pluriel de nombre. Ce n'est pas une forme de politesse. Ce n'est pas le roi qui parle et qui dit « nous aimerions manger de la crème glacée pour souper ». Non, ce n'est pas ce « nous-là ». C'est un « nous » pluriel. Et donc, étrangement, tu es là, puis il y a Dieu qui est présent, puis là, Dieu se concerte, Dieu se consulte, puis dit ouais, « je pense qu'on va faire l'homme à notre image ». Là, tu te dis « c'est quoi cette affaire-là? On est monothéiste ou on n'est pas monothéiste? » C'est pourquoi les musulmans vont dire de nous qu'on est polythéiste lorsqu'on dit que Dieu le Fils et Dieu le Père forment un seul Dieu. Mais j'ai un indice ici déjà qu'il y a une pluralité dans la personne de Dieu. Et les chrétiens, on a compris à force d'étudier les Écritures qu'il y a vraiment Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous trois Dieu. Ils forment un seul Dieu, égaux dans leur qualité, égaux dans leur dignité, égaux dans leur noblesse et très différents dans leur rôle. Ils sont complémentaires dans leur rôle. Par exemple, on va lire dans 1 Corinthiens 15, versets 27-28. « Dieu, en effet, a tout soumis à ses pieds, ici, faisant référence à Dieu le Père. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, en parlant du Fils, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. » Donc, le Père n'est pas soumis au Fils. Il faudrait que je vous mette tout le contexte pour que vous voyez l'ensemble du passage. « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises au Fils... » Hey, êtes-vous avec moi? Ça va? C'est bon, c'est un peu compliqué, hein? Juste comme verset. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est vraiment intéressant. Dieu le Père décide de soumettre l'univers à son Fils, qui lui est lui-même soumis. Et lorsque le Fils va être entièrement élevé dans toute sa majesté, toute sa gloire, il va prendre toute sa gloire puis il va dire, « Tiens, Père, je te remets. » Toute autorité, toute gloire. C'est vraiment beau. Et clairement, le Fils est empreint d'une dignité extraordinaire. Par exemple, Dieu le Père va dire du Fils, « En lui, j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. C'est ça qu'il dit aux disciples lorsqu'il est en train de révéler qui est ce Jésus de Nazareth tellement étrange, qui fait des miracles. C'est qui? Puis là, le Père se fait entendre sa voix puis il dit, « C'est en lui que j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. » Et le Fils lui-même, à la fin de son ministère, avant de monter auprès du Père, va dire, « Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. » Voyez-vous, le Père a tout soumis au Fils, afin que le Fils règne. Et puis le Saint-Esprit a un rôle très effacé. Absolument glorieux. On fait erreur, je l'ai dit dernièrement, lorsqu'on dit « OK, mais là, le Saint-Esprit a été négligé. » Il faut faire attention, le Saint-Esprit nous parle toujours du Fils. Le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître le Fils. C'est vraiment ça son rôle. Il a un rôle extrêmement effacé, puis en même temps, c'est celui qui est le plus près de nous parce qu'il vient habiter en nous. Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Donc, celui avec lequel on a le plus d'intimité, je pourrais dire, c'est l'Esprit-Saint parce que c'est par lui qu'on est en communion avec Dieu. Puis en même temps, il ne nous parle pas de l'Esprit, il nous parle du Fils. Puis le Fils nous parle de la gloire du Père. Et il y a donc une complémentarité au sein de la Trinité. Et lorsqu'on regarde comment Dieu a conçu le mariage entre un homme et une femme, il nous a ramené là dans cette complémentarité-là. Et je ne suis pas en train de dire que l'homme et la femme dans leur mariage vont manifester entièrement la Sainte Trinité. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ils vont refléter cette idée où deux êtres égaux en dignité, dans leur rapport ensemble, vont exprimer cette complémentarité-là, dans des rôles qui vont être différents. On lit dans Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ils deviennent une seule chair, devant Dieu, à quelque part, un seul être. Hier, on a célébré un mariage ici. Samuel a épousé Larissa. Devant Dieu, il y a une unité qui a été créée, qui est là, qui est indissociable jusqu'à la mort. Ils sont unis devant Dieu, par la grâce de Dieu, jusqu'à la mort. Et donc, il y a une complémentarité dans le couple lui-même. Ils vont se compléter dans leur intimité, ils vont se compléter relationnellement, ils vont se compléter au quotidien dans leur manière de fonctionner. Et ils sont là pour compléter l'âme l'un de l'autre, à quelque part. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ces rôles qui sont différents? Bien, on parle d'un mariage terrestre puis d'un mariage céleste. C'est mon dernier point ce matin. Un mariage terrestre, un mariage céleste. On apprend dans le livre aux Éphésiens que nos mariages sur la terre sont des mariages, mais d'abord ça c'est Jésus qui nous l'a enseigné, que nos mariages sur la terre sont temporaires. Parce qu'en fait, ce sont des images qui parlent d'un mariage éternel, celui entre Christ et son épouse, l'Église. Et donc, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend où est-ce que tu es, comment tu vis ton mariage, c'est temporaire. Si tu viens de te marier, tu dis non pour la vie. Après ça, si ça fait quelques années, il y a des moments où tu dis, Jésus, je pense que je te préfère comme époux, tu sais. Mais par ta grâce, avec l'Évangile, on va persévérer jusqu'à la fin. Puis on s'appuie dans l'Évangile, n'est-ce pas, pour persévérer. Donc, on parle d'un mariage terrestre puis d'un mariage céleste. Puis tous les mariages sur la terre sont là pour illustrer ce mariage céleste-là. Fait que c'est intéressant de réaliser que lorsque Christ vient, puis qu'il vient, je veux dire comme ça, réparer la gaffe d'Adam et Ève, lorsqu'il vient restaurer notre communion avec Dieu, lorsqu'il vient faire un peuple nouveau, il ne nous dit pas, il n'y a plus de complémentarité dans le mariage maintenant. Pourtant, Paul est celui qui va dire, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître, ni juif, ni non-juif. Et donc, Paul est en train d'établir le fait que nous sommes tous égaux en dignité, mais Paul est celui qui va rappeler qu'à l'intérieur du mariage, nous avons des rôles différents. Alors, ces rôles sont différents et se manifestent essentiellement dans le mariage puis dans la direction de l'Église locale. Je vais être très bref sur l'Église locale, juste parce que mon premier point a pris pas mal de temps. Marie, des maris qui aiment et des épouses qui honorent par la grâce de Dieu leur époux. Alors, écoutez bien ceci, les hommes. Bien, soit dit en passant, je devrais vous dire que vous n'êtes pas tous appelés au mariage. Plusieurs d'entre vous, vous êtes appelés au célibat. Ce qui est absolument glorieux. Un célibataire, ce n'est pas quelqu'un qui a manqué son coup de se marier, si c'est ça qui est appelé. C'est quelqu'un qui a plus de temps pour servir le Seigneur plutôt que servir son épouse ou servir son époux. Et c'est quelque chose d'absolument glorieux. On travaille très fort pour faire venir un ami, Sam Albury, qui est célibataire et qui a écrit un super livre sur le célibat. Ça viendra, j'espère, bientôt. Mais écoutez bien ceci, messieurs. Pour les hommes, quand vous décidez d'épouser une femme, vous prenez la responsabilité de conduire, avec l'aide de votre épouse, deux vies. Tu es célibataire, tu es responsable d'une vie. Tu décides de te marier, tu es responsable de deux vies. Et donc, si tu ne veux pas assumer la responsabilité de deux vies, ne te marie pas de grâce. Ta femme va être tellement malheureuse de voir que tu penses juste à toi et que tu as l'impression que tu es juste responsable de toi. Puis elle va passer sa vie à te dire, « Mais je pensais que tu voulais comme être responsable de nous deux, à quelque part, avec mon aide, avec mes conseils, avec ma participation. » Pour les hommes, quand vous décidez d'épouser une femme, vous prenez la responsabilité de conduire avec l'aide de votre épouse deux vies. Tu n'es plus responsable d'une vie, mais de deux vies. Tu choisis d'être le leader et le serviteur d'une autre personne pour qui tu chercheras toute ta vie à donner ta vie. C'est ça que tu vas faire. Tu es un gars, tu dis, « Moi, c'est sûr que j'ai appelé à me marier. Mets ça dans la prière. Parce que si tu es appelé à te marier, ça veut dire que tu es appelé à mourir à toi-même à tous les jours et appliquer ta vie à être le serviteur, celui qui donne sa vie à tous les jours comme un leader, comme un serviteur. Parce qu'un leader dans les Écritures, c'est un serviteur. Fait que si tu me dis, ouais, mais avec le mariage, j'ai l'impression de mourir. Ben, on s'approche de ça, tu sais. T'es supposé mourir à toi-même tous les jours. C'est pas ça l'idée? Tu donnes ta vie, tu sais, donner sa vie, ça veut dire mourir. Ouais, mais j'ai l'impression de mourir dans le mariage. Bon, OK, peut-être que c'est juste que tu le fais pas joyeusement. Se soumettre joyeusement, tu le fais peut-être pas joyeusement. C'est peut-être ça le problème. Mais c'est normal que tu aies l'impression de mourir un petit peu tous les jours. C'est là que tu vas trouver ta vie. C'est en renonçant à toi-même. Et donc, tu es appelé au mariage, tu es un gars, c'est à ça que tu es appelé. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est ton modèle. Ça va prendre toute la grâce de Dieu, mon ami, pour que tu y arrives. Parce que tu es rebelle pareil comme moi. Tu n'es pas un bon mari comme tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un gracier, puis la grâce de Dieu grandit en toi, puis tu apprends à faire ça joyeusement. Pour les femmes, quand vous entrez dans le mariage, vous décidez, alors je vais dire là, la chose, écoutez, là, je peux me faire canceller demain matin, j'existerai plus. Si vous voyez que j'existe plus dans les médias sociaux, c'est à cause de ce que je vais dire maintenant. Pour les femmes, quand vous entrez dans le mariage, vous décidez d'inviter un leader dans votre vie, un leader que vous allez chercher à honorer par vos attitudes toute votre vie. Et c'est ça que vous choisissez, les dames. Peut-être que vous êtes appelé au célibat. Si vous êtes appelé au célibat, bien, comme tous les hommes dans l'Église, vous êtes appelé à honorer les autorités, vous êtes appelé à honorer les pasteurs qui dirigent l'Église. Vous n'êtes pas appelé à honorer tous les hommes dans l'Église, à être soumis à tous les hommes dans l'Église. Ce n'est pas les hommes soumettent les femmes, c'est une soumission volontaire d'une épouse envers son mari. Si tu es appelé au mariage, t'invite un leader dans ta vie, volontairement. Pourquoi? Pas parce que tu es moins intelligente, moins fine, moins brillante, tu as moins de valeur. Parce que nos vies servent à refléter l'image de Dieu. Rappelez-vous de la Sainte Trinité. Nos vies servent à refléter l'image de Dieu. Et donc, un chrétien, par exemple, ne se soumet pas aux autorités en disant « Ah, lui est plus brillant que moi, fait que je vais me soumettre parce que je suis moins intelligent que lui. » Non, non, c'est pas ça. Il a été placé là en autorité, je me parle à moi-même, puis je mets mon masque, puis j'essaie d'être joyeusement soumis. Il faut que je me parle, je vous le dis, là. Je me le répète, là. Parce que c'est pas sur la base nécessairement de son intelligence. C'est volontairement que je le fais. Et donc, les épouses, si vous avez été appelées au mariage, vous êtes appelées à inviter ce leadership-là dans votre foyer et à chercher à honorer votre époux. Je pourrais m'étendre sur ça, j'espère le faire, j'espère aller plus loin. Je n'irai pas beaucoup plus loin ce matin. Mais de ça, de cette complémentarité-là, il y a quelque chose qui va être exprimé de la personne de Dieu que vous ne trouverez pas dans un mariage où les deux vont dire « Toi et moi, on est deux partners. » OK? C'est 50-50. Mets la moitié de ta paye, je vais mettre la moitié de ma paye, on va avoir chacun notre compte. Tu décides cette année où on va, je vais décider où on va l'année prochaine. C'est toi qui as choisi la dernière maison, je vais choisir la prochaine. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus beau que ça. C'est une initiative de leadership, de service de la part du mari, puis une réponse de l'épouse qui dit « Je veux te suivre, écoute ma sagesse. Je suis là pour t'honorer. Laisse-moi t'aider à être encore plus honorable. » Moi, je te rends honneur lorsqu'on est devant les gens, mais je peux peut-être t'aider à être un petit peu plus honorable si tu veux m'écouter un peu. Et littéralement, c'est une danse qu'on fait ensemble. Très volontaire. Et dans les Écritures, qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire dans l'Église, qu'est-ce que ça donne? C'est que Dieu a appelé des hommes à être pasteurs. Parce qu'il y a cette notion d'autorité qui est là. Et les Écritures sont claires, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Et on ne veut pas négocier sur ça, parce que c'est tellement clair dans les Écritures que lorsqu'on rejette ça, il y a plein d'autres passages des Écritures qu'on va rejeter. Dieu appelle des hommes à être les anciens, les bergers. C'était tous des hommes qui étaient là, et l'homme ancien, le pasteur, les pasteurs sont appelés à enseigner l'Église, parce que l'enseignement dans l'Église, c'est une figure d'autorité. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit l'autorité se trouve dans la parole de Dieu, elle ne se trouve pas dans le pasteur, mais le pasteur ou les pasteurs sont des enseignants de la parole, et donc ils sont en train de médier l'autorité auprès de l'Église, et je pense que c'est pour ça que Dieu a décidé que c'était des hommes qui seraient pasteurs. Pas parce que les femmes sont moins compétentes. Au contraire, c'est tellement gênant quand une femme vient te voir et elle dit « Hey, les gars, je peux-tu vous parler deux minutes? Là? Vous êtes en train d'oublier, tu sais, puis là, t'es là, tu dis « Aïe, aïe, OK, tellement raison. » C'est pas ça. C'est qu'à travers cette complémentarité-là, encore une fois, même dans l'Église locale, nous sommes là pour illustrer cette complémentarité dans la personne de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Écoutez, c'est contre-culturel. Puis en même temps, c'est tellement naturel. C'est tellement évident si tu acceptes qu'il y a un créateur qui a designé la terre. Et certains d'entre nous sont appelés au mariage. Si nous embrassons le projet de Dieu, on va refléter la personne de Dieu d'une manière unique, d'une manière extraordinaire. Honnêtement, ça ne se fait qu'avec la puissance de l'Évangile. Ça prend la grâce de l'Évangile pour qu'il y ait quelque chose de volontaire dans tout ça, où c'est animé avec plein de grâce, plein de pardon, plein de générosité, plein de patience. Mais si Dieu vous accorde la grâce de vous marier, bien Dieu va vous offrir cette grâce-là aussi pour avancer dans votre mariage. Et si Dieu vous accorde la grâce de persévérer, Bien, peut-être qu'un jour, comme Esther et moi, 28 ans de mariage, vous allez dire en vieillissant, de plus en plus, je vois la beauté du projet de Dieu. Puis j'entre dans ce projet-là, il y a quelque chose de merveilleux. Alors, ce que j'invite notre Église à faire, c'est à célébrer ce que Dieu a créé. Célébrer cette diversité-là. Ne la nions pas. Assumons-la. Les hommes et les femmes sont également créés à l'image de Dieu. Ils sont extrêmement semblables, mais en même temps différents. Et c'est extrêmement beau. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, on vient devant toi pour célébrer ton projet à toi. Nous ne sommes pas les auteurs de nous-mêmes comme on voudrait le croire aujourd'hui, Seigneur. Non, je suis arrivé nu comme un ver, je vais repartir nu comme un ver et je suis arrivé quand tu l'as décidé, je vais repartir quand tu l'as décidé. J'ai très peu de contrôle, Seigneur. Je ne me suis pas inventé, je ne me suis pas créé, tu nous as créés, Seigneur. Enseigne-nous comme Église à assumer ça joyeusement, entièrement, librement, même si ça peut être choquant, même si ça peut être frustrant parfois. Enseigne-nous à l'assumer entièrement, Seigneur. Père, que les hommes de cette Église qui sont appelés au mariage choisissent de mourir à eux-mêmes tous les jours pour être ces leaders-serviteurs qui vont donner leur vie consciemment chaque jour, mourant à eux-mêmes pour servir leur épouse, leur foyer, leur maison. Que les épouses, les femmes qui sont appelées au mariage, embrassent cette idée qu'elles ont invité un leader dans leur vie à prendre l'initiative et qu'elles vont chercher à honorer, chercher à se soumettre à ce leadership-là. Et que dans cette complémentarité-là, il y a une belle chimie, une belle harmonie. Comme dit l'apôtre Pierre, que les hommes honorent, respectent leur épouse. Que les femmes cherchent à aimer leur mari, à l'honorer pour le leadership qu'il a apporté, Seigneur. Et que dans l'Église, Père, les hommes se lèvent, appelés par toi pour être pasteur. Et que toute l'Église, joyeusement, se soumette à la direction de ses leaders. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous prions.